progueuses, ici vos gars du prog.
Alors bonjour chers progueux et progueuses, aujourd'hui un épisode encore une fois très spécial car je suis toujours avec mon fidèle et bon ami M. Philippe Tremblay. Comment ça va mon cher Philippe?
Comme toujours pour notre rendez-vous bi-hebdomadaire, un plaisir de te retrouver. Donc ouais, excité pour aujourd'hui, un épisode particulièrement spécial. Ouais, on célèbre la sortie d'un album aujourd'hui.
Exactement, en fait... Pour moi, en fait, c'est très spécial parce que premièrement, c'est la première fois qu'on a un invité musicien avec nous, qu'on va parler d'une sortie d'album. Et en plus, c'est un de mes grands amis avec qui je joue toujours de la musique et que je joue beaucoup de musique. J'ai même joué sur cet album. Alors, je vous présente tout le monde, monsieur Gabriel Cyr. Alors, bonjour Gabriel, ça va bien?
Salut, ça va bien toi, Carl?
Ben oui, ça va très bien. Je pense bon, le téléphone à côté de chez nous vient de sonner. Ah, c'est beau, tout est beau, on peut reprendre maintenant. Alors oui, moi ça va très bien. Tu as sorti un album il y a quoi, à peu près un mois, c'était le 8 mai dernier. Tu as sorti ton premier album solo, un EP qui s'appelle Spectrum Exploration 1. Je vais commencer tout de suite avec une question pour toi. J'aimerais ça que tu nous parles un peu... des influences de cet album-là, qui est vraiment excellent, ceci dit. Mais ça a été quoi tes influences pour cet album-là, mon gars?
Ben, en fait, je dirais que ça remonte à quand même longtemps. Ça remonte à mes débuts à la guitare, quand je trippais sur John Petrucci, Joe Satriani, Paul Gilbert, Steve Vai, vraiment des guitar heroes. Puis je dirais que c'est comme rester un peu toujours en dedans de moi, cette espèce d'amour pour cette musique-là. Fait que c'est sûr que ça, c'est des influences. Mais bien sûr, au fil du temps, j'ai écouté d'autres choses. J'ai écouté beaucoup de jazz. On fait du jazz fusion ensemble, Carl. Fait que ça, c'est sûr qu'il rentre dans mes influences. Puis tout le côté prog aussi. Le côté, j'ai joué du prog des années 70 avec un hommage. Fait que ça aussi, ça veut pas, ça peut influencer et amener certaines idées. Mais c'est ça, ce que je m'étais dit en fait pour cet album-là. Je voulais que ce soit un album de rock instrumental, mais avec des influences provenant du prog, puis provenant aussi du jazz fusion. Fait que c'était ça mon... ma ligne directrice, je dirais, pour la composition.
Oui, puis en fait, tu parles du prog, mais on entend aussi dans cet album-là qu'il y a aussi un côté de vouloir faire comme des chansons, mais un peu comme si la guitare, ça serait la voix. Il y a des couplets, des refrains, et il y a quand même une structure assez établie au travers des pièces.
Oui, en fait, ça, c'était un autre point que je m'étais donné, un autre point qui fait partie de ma ligne directrice, c'est d'essayer de faire des chansons un peu comme s'il y avait un chanteur, sauf que la guitare prend le rôle de la voix, puis c'est elle qui va faire les mélodies, qui va chanter les mélodies, si on veut. Donc, effectivement, c'est ça, je me suis donné des formes inspirées de la musique populaire, là, avec, intro, des couplets, refrains, un petit bridge, mais tu sais, c'est ça, je sais que l'auditeur se reconnaisse un petit peu là-dedans, ça mène un côté de quelque chose de familier dans la musique.
Mm-hmm. Puis je pense que tu as parlé, que tu as joué, je pense, pour te connaître aussi, Gab, tu as joué toutes sortes de musique. Tu dis que tu as joué dans un hommage au prog, je sais que tu as joué du pop dans ta vie, tu as sûrement même déjà joué du country, du funk, plein d'affaires. Puis moi, en tout cas, personnellement, tu me diras qu'est-ce que tu en penses, Phil, aussi, là, mais je trouve que ça s'entend dans cet album-là que tu as joué plein de choses. Tu sais, la première pièce, juste Dark Times, on entend que c'est une pièce plus métal. Après ça, il y a une autre pièce à la fin qui est beaucoup plus planante, tranquille. Il y a la toune Plastic Personality qui est vraiment une pièce fusion rock. Comment tu pourrais dire, RP, qu'est-ce que je veux aller par là? Est-ce que tu trouves que le fait d'avoir joué plein de sortes de musique, ça a un peu influencé ta composition, on pourrait dire? Ou penses-tu, mettons, qu'il y aurait un jeune musicien en ce moment, est-ce que tu dirais d'essayer de faire plein de choses ou de se concentrer juste à un style?
Ça, c'est une bonne question. En fait, il y a comme plusieurs volets à ta question. Oui, c'est sûr que le fait d'avoir joué plein de styles, ça transparaît dans ma musique, ça s'entend, je crois. Mais aussi, le projet Spectrum Exploration, là, c'est Spectrum Exploration 1, donc c'est le premier EP, mais éventuellement, je vais en faire plusieurs. Puis c'est vraiment un projet dans lequel je veux explorer différents styles que j'aime jouer. Mais toujours en essayant de garder un peu mon son, puis essayer de garder une certaine authenticité là-dedans. Fait que c'est ça, c'est le but de ce projet-là, c'est de pouvoir m'exprimer avec différentes esthétiques que j'aime. Mm-hmm. Ensuite, bon, pour un jeune musicien qui voudrait, en fait, qui se demanderait s'il devrait se concentrer sur un style ou en jouer plusieurs, je pense qu'il n'y a pas vraiment de bonne réponse à ça. Mm-hmm. Je pense que c'est sûr qu'à un moment donné, on n'a pas le choix de se concentrer. Si on veut aller plus loin et on veut aller plus en profondeur dans un style, il ne faut pas avoir un certain focus puis se concentrer sur ça. Mais c'est bon de garder les oreilles ouvertes, d'écouter toutes sortes de choses puis d'essayer plein de styles, je pense. Je pense que c'est une bonne chose.
Puis, tu as joué avec plusieurs musiciens aussi sur l'album et tu as joué aussi plusieurs instruments. Pourrais-tu juste nous dire c'est qui les musiciens qui ont joué sur cet album, en fait?
Oui, ben en fait, c'est ça. Premièrement, au drum, à la batterie, j'ai Antoine Guertin, qui est un super batteur que je connais depuis quelques années. Puis je l'avais entendu jouer dans différents contextes. Il joue dans un band de prog qui s'appelle Hillward, mais il joue aussi dans un band de metal assez épique qui s'appelle Aeternam.
Mm-hmm.
Puis c'est un batteur aussi qui fait des gigs, là, qui fait des concerts de musique populaire, puis qui va jouer différents styles. Fait que je savais que c'est un batteur qui était assez versatile aussi. Fait que je trouvais que c'était un excellent candidat pour cette musique-là qui allait toucher un peu. Oui, c'est rock, des fois ça va plus dans le fusion, il peut avoir des influences jazz. Fait que tu sais, je trouvais que c'était vraiment un bon candidat pour jouer cette musique-là. Ensuite, à la base, j'ai deux invités. Donc, premièrement, Christian Paco sur la pièce Dark Times, qui est la première du EP. J'ai joué avec Christian dans l'hommage au prog, je parlais tout à l'heure, au prog des années 70. Donc, il était bassiste dans ce projet-là. Puis, je l'ai entendu jouer dans différents projets aussi. Il y a un band de prog qui s'appelle Contemplator, qui est excellent aussi. Puis, finalement, on a Carl Mayotte.
Carlin de Bin.
Ah, ben, quelle surprise!
Pièce!
Donc, Carl Mayotte qui a joué sur deux pièces, en fait, sur Plastic Personality puis Unexpected Beauty. Donc, c'est ça. Ben, Carl, on se connaît bien puis tout ça. Carl, c'est un bassiste extraordinaire.
Oh mon Dieu. Ah, tu vas faire rougir, Gab, là.
Ah! Donc, c'est vraiment plaisant de t'avoir eu sur le EP. Puis, il a mis une touche de. Comment je pourrais dire?
De jazz. Je sais pas.
De jazz, ouais, on pourrait dire ça.
Toutes les épices du jazz.
Les épices du jazz, puis le jeu de fretless aussi sur Unexpected Beauty. Je pense qu'il ajoute quelque chose de vraiment intéressant à la pièce. Donc, ouais, puis c'est. En fait, oui, un dernier invité, il y a Joël Thibault, qui est un saxophoniste de Québec, qui a joué un solo sur Plastic Personality, qui est la pièce plus fusion sur l'album.
Moi, qui est dans. C'est pas à cause que j'ai joué sur cette pièce-là, mais c'est une des pièces que j'aime beaucoup. En tout cas, moi, personnellement, c'est dans mes pièces préférées de l'album.
Ouais, je savais que le solo de saxophone. Le solo de saxophone est très bon, d'ailleurs. C'est quelque chose que je voulais souligner, d'ailleurs, en parlant de l'album.
Le tutsi aussi. Oui, oui.
Je suis d'accord avec vous autres. J'aime bien son solo.
Il y a un son, Joël, pour le connaître aussi. Il y a ce son-là de saxophone pop à la David Sanborn qui est perçant et précis. Là, que...
Ah oui?
C'est, ouais, un des bons au Québec dans ce son-là, je trouve.
Oui, effectivement. C'est vraiment... il y a vraiment un son excellent là, dans ces styles-là. C'est quelque chose.
C'était vraiment une bonne idée d'amener, je pense, un solo de saxophone parce que puis, le fait que tu as été amené, que le sujet... Quand tu disais tantôt qu'il y a plusieurs genres dans ta musique et tout, moi, quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup aussi cette musique-là de Guitar Hero. J'étais un fan de Satriani aussi. Puis le seul musicien de ce genre-là, même j'écoutais aussi beaucoup Michelangelo Battio, je suis allé voir en show. Oui. Puis le seul musicien de ce genre-là que j'écoute encore, c'est Buckethead. Peut-être qu'on aura la question d'en parler plus tard. Mais ce que je trouvais le plus dur en vieillissant de ce genre musical-là, c'est que je trouvais qu'il y avait un piège où ça devenait souvent redondant ou lourd ou inaccessible. Mais je trouve que c'est quelque chose que tu as volontairement ou pas, je sais pas, mais éviter en faisant justement appel à un solo d'autre chose que de guitare dans un album de guitare, ça fait du bien, c'est plaisant, je trouve ça, ça apporte beaucoup. Puis de faire plusieurs genres aussi, pas juste faire du gros shred sans arrêt, puis ça apporte différentes couleurs aussi, puis... Ça apporte aussi différentes émotions à l'auditeur. Tu nous amènes à des différents endroits. Au lieu de nous garder toujours dans l'espèce de vibe spatiale de Joseph Rainey, tu sais, je trouve souvent qu'il est là, lui. Puis on reste là. Puis je trouve que ça vient barbant. Tu sais, mais je trouve que tu as évité ça en mixant les genres. Fait que je voulais souligner ça. Puis te féliciter d'avoir fait ça, d'ailleurs.
Ah, ben, merci. Je sais pas, Philippe, as-tu écouté Joseph Rainey, les albums plus récents, un petit peu qu'il a fait?
Moi, j'avais acheté un album, une espèce de méga anthologie, là, avec comme 40 tunes dessus. Là, quand j'étais plus jeune, c'était comme l'album que tu sais, dans le temps où je pouvais acheter un album aux 6 mois parce que je travaillais pas, puis c'était difficile d'avoir des albums. J'avais acheté ça, puis Je l'avais écouté beaucoup, puis je me suis totalement burn out sur sa musique avec cet album-là. Peut-être qu'il faudrait que j'écoute ce qui fait de plus.
Si je peux te conseiller un album, essaye Black Swans and Wormhole Wizard. C'est un album de 2010, la pochette est blanche. Vraiment un excellent album, puis justement, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup influencé parce que c'est vraiment des chansons, tu sais. T'écoutes les pièces, puis tu vas probablement reconnaître un petit peu mon approche là-dedans. Ça pourrait être avec un chanteur, là, ces pièces-là. Puis c'est ça, c'est vraiment différent de peut-être que Joe Satt il a fait plus des années 90, disons.
Je pense que c'est ça que j'ai plus écouté, moi, C'était plus l'époque flashy, là.
Oui.
Mais moi aussi, je trouve qu'à partir de cet album-là, je sais exactement de quel album tu parles, Gab. Puis moi, je trouve que fin 90 jusqu'à peut-être cet album-là, je trouve qu'il se répétait peut-être souvent. On voyait une sorte de formule au travers de ces albums.
Ouais.
Une formule qui marche très bien, décidément, parce que sa carrière a toujours bien marché. Mais je trouve surtout cet album-là, c'est vraiment un bon album de rock aussi. Tu sais, le jeu de la basse, puis du drum, c'est super assis, super. Genre, le bassiste garde une note des fois, puis c'est bon, puis c'est à la bonne place. Tu sais, c'est vraiment un bon album.
Ouais, vraiment.
Mm-hmm. Puis, il y a Pliny aussi, en fait. Moi, je trouve dans les jeunes Guitar Hero en ce moment, qui fait vraiment du bon stock, là.
Ah oui, vraiment. Lui, c'est sûr que c'est un style de composition plus éclaté, mais je pense que ce qui fait sa force, c'est le souci du détail dans sa musique. Dans sa musique, c'est assez incroyable. C'est autant au niveau de la production que de la composition. Là, c'est vraiment, vraiment quelque chose. Il y a beaucoup, beaucoup de détails. Même si des fois, c'est des compositions un peu plus complexes, mais c'est tellement, tellement enveloppant. Tu rentres tellement dans son univers quand tu écoutes ses albums, je trouve. Là, ben, en fait, il y a juste un album puis plusieurs EP là, quand tu écoutes sa musique.
Mais ben, ouais, ça, vraiment... Je me trompe-tu ou il y a un peu de la lignée, là, Tosinabassi, là, comme un peu dans ce genre de technique-là?
Pliny, je sais pas si je l'associerais vraiment à quelque chose de plus vraiment gent puis très technique, comme ce que Tosin fait avec Animal's Leader, par exemple.
Mm-hmm.
Mais c'est sûr que c'est une sonorité plus moderne. T'sais, on n'est pas justement dans le... C'est pas la lignée de Joe Satriani, Steve Vai, Paul Gilbert, on est dans d'autres choses.
Mm-hmm.
Comme Carl disait, une nouvelle génération de guitaristes, là.
Ben, c'est la génération des YouTube, d'ailleurs, je voulais amener sur ce sujet-là, mais c'est un peu un gars qui a commencé comme qu'est-ce que tu étais en train de faire, Gab. Il a commencé beaucoup sur YouTube, si je me trompe pas, Pliny aussi.
Oui, vraiment.
C'est pas connaître comme ça.
Oui, ça a été, je sais pas si ça a été dans les premiers, mais il s'est fait connaître, effectivement, en postant des vidéos de lui dans sa chambre qui joue, sa musique. C'est vraiment des vidéos simples, faites... avec pas nécessairement un gros budget, mais la musique était vraiment excellente, fait que ça a bien marché.
Puis faut le dire, toi aussi, en ce moment, t'es pas juste un musicien qui fait du live dans la vie, t'es, on peut dire, un YouTuber, quelqu'un qui diffuse beaucoup sa musique via YouTube. Comment t'en es venu à décider de faire ça? Puis comment t'en es venu, c'est une double question que je vais te poser, comment t'en es venu à décider de vouloir faire ça, puis comment on peut réussir, ou entre guillemets, comment tu fais pour que ça marche, t'sais?
Okay.
Ben, ça marche très bien en ce moment, là. Ça marche très bien tes affaires. T'es...
Donc, question annexe A. Alors, en fait, j'ai beaucoup été influencé par des guitaristes sur YouTube. Moi, ça a vraiment été quelque chose qui m'a marqué dans mon cheminement. T'sais, j'écoutais des guitaristes comme Tom Quayle ou Rick Graham, qui sont des guitaristes YouTubers. Que, comme Tom Quayle, il n'y avait même pas vraiment d'album que tu peux écouter.
Non.
Il faisait plein de vidéos puis un playing absolument incroyable. Fait que, c'est des gens comme ça qui m'ont influencé, peut-être sans le savoir parfois, mais ça a comme un peu toujours dans mes projets. Je savais pas si c'était possible, si j'avais les capacités de le faire, mais ça fait quand même assez longtemps que je poste des petites vidéos sur YouTube, que j'essaie d'améliorer ça, puis que je m'intéresse à ça. C'est sûr que dans les dernières années, j'ai appris beaucoup sur la production, puis sur le mixage, sur le montage vidéo. Puis j'ai vraiment travaillé beaucoup à développer ça. Mais moi, ça fait quand même assez longtemps que je veux faire ça, en fait. Que je sais pas si je peux me considérer comme un YouTuber, parce que je poste juste de la musique. Les YouTubers, j'ai l'impression que c'est comme quelque chose de plus complet, où ils vont vraiment, je sais pas,
partager leur vie un peu,
Ouais, c'est ça. Ils deviennent comme une personnalité publique, si on veut, sur YouTube. Mais je sais pas si ça, c'est mon but, plutôt que de juste avoir quelque chose qui est plus musical, tu sais, au niveau de la chaîne.
Mm.
Mais en tout cas, ça c'est juste les termes, là, savoir si...
Faut dire aussi que peut-être qu'est-ce qui a aidé aussi, c'est que tu as remporté, il y a quoi, ça va faire bientôt 2 ans, le titre guitariste de l'année, Guitarist of the Year. Et comme on aime bien te taquiner, guitariste amateur. dans la vie. qui est un prix assez prestigieux que tu as remporté en Angleterre et ça a dû donner un coup de pouce à ta chaîne YouTube, ça c'est sûr.
Oui, ben en fait, ça a comme été un bon timing parce que j'avais commencé une série, en fait, que c'est un hommage aux solos de guitare qui ont comme été marquants, je dirais. Mm-hmm. J'avais sorti le premier vidéo des années 70. Ça s'appelle Great Guitar Solo, A Trip in the 70s. Donc, si vous voulez voir la vidéo, j'avais sorti ça, je crois, fin août, début septembre. Puis, c'est ça, le concours avait lieu fin septembre. Puis après ça, ce vidéo-là est comme devenu viral. Puis ça a comme vraiment lancé ma chaîne YouTube. Mm-hmm. Puis là, j'ai fait plusieurs autres parties de cette série-là. Donc, les années 80 qui sont en fait deux parties. Donc, d'années 80 à 85, puis 85 à 89.
Mm-hmm.
Donc, oui, c'est ça le concours, effectivement. Je pense que c'est ça qui a pas mal lancé ma chaîne YouTube qui me permet d'en faire plus aujourd'hui, finalement.
Ouais, ben c'est sûr que ça a créé un buzz autour de toi aussi. Puis, tu sais, je pense que le monde de la guitare, tu sais, des Guitar Heroes, que ce soit les Bass Heroes, les Drum Heroes en général, tu sais, ça marche beaucoup. J'ai l'impression que ces genres de trucs-là, le fait de gagner ces concours-là, il y a beaucoup de gens qui suivent ça, qui vont aller après ça sur YouTube. Tu sais, c'est un peu comme le même genre de personnes qui suivent ces deux scènes-là, YouTube et les concours aussi. Là. Donc, j'ai cette impression-là, en tout cas. Mm-hmm.
Mm-hmm. C'est ça. Puis pour la question, bon, en fait, tu avais une annexe B. Donc,
c'est vrai.
Comment on peut en arriver là? Ben, je pense que c'est de commencer. Puis c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à apprendre dans différents domaines. Que ce soit autant au niveau de la captation sonore, du mix, du mixage sonore, mm-hmm. Du montage vidéo, de l'éclairage, de ce qui est les caméras, bon, comment ça fonctionne les caméras, quelles caméras j'aurais besoin. Il y a vraiment beaucoup de connaissances à aller chercher, mais si on s'intéresse à ça, puis qu'on en apprend un petit peu à chaque jour, puis qu'on essaie de s'améliorer, ben, c'est très faisable. Je pense que c'est un des avantages de notre ère, en fait, en ce moment, avec l'Internet, c'est qu'on a beaucoup de ressources qui sont accessibles, entre autres sur YouTube, mais aussi dans différents livres qu'on peut acheter et qu'on peut trouver facilement grâce à Internet.
Wow! Parce que moi, c'est quelque chose que j'essaie de dompter encore en étant musicien. Je trouve que tu le fais très bien, en tout cas, mon gars, puis je t'admire pour ça, si je peux le dire, parce que c'est pas facile et il y a peu de gens qui réussissent bien. Avant qu'on passe à notre prochaine section, j'aimerais ça parler aussi. Tu as un groupe de prog aussi qui s'appelle Universe FX.
Oui, tout à fait.
Que vous avez sorti deux albums ensemble que je trouve magnifiques. Pour les fans de prog metal et juste musique incroyable en général, musique épique, c'est pour vous, Universe FX. J'aimerais ça qu'on en parle un peu plus. En fait, moi, pour être un fan du groupe depuis longtemps, je me suis toujours demandé comment vous marchez pour la composition des pièces. En fait, c'est des pièces des fois assez longues, assez complexes. Est-ce que vous composez en band ou est-ce que chacun amène ses idées, en fait?
En fait, ces deux albums-là ont été composés pas mal au complet en groupe. C'est sûr que on arrive individuellement avec certaines idées, mais tout ce qui est vraiment les arrangements, puis comment je pourrais dire, la forme de la pièce, les sujets, les paroles, ça se fait vraiment en groupe. Puis c'est sûr que des fois, il y a des plus petits groupes, comme par exemple pour les paroles, c'est plutôt Francis puis Gabriel-Antoine qui vont travailler là-dessus. Mais vraiment, quand les sujets, on les trouve en groupe. Mais non, c'est ça, on a composé en groupe pour ces deux albums-là. C'est un peu plus long, mais en même temps, je pense que c'est ça qui a donné notre son puis qui a fait qu'on est arrivé avec ces compositions-là.
Mm-hmm. Puis pourquoi, je sais que pour le deuxième album, vous avez décidé d'appeler ça, pas nécessairement du progressif, mais du cinématique rock. Je pense vous visez un peu. Peut-être tu pourrais développer juste pour bien comprendre pourquoi vous avez décidé de changer, de mettre ce terme-là en fait sur votre musique.
Oui, en fait, c'est que le prog, c'est complexe parce que ça a tellement changé à travers les années. Puis des fois, on a l'impression que prog, les gens qui vont écouter du prog ne seront pas nécessairement attirés vers peut-être le style de musique qu'on fait en ce moment ou vers le prog moderne, si on veut. Mais ça référait plutôt au prog classique des années 70, ou si on peut dire peut-être des années 70 jusqu'à 90, disons. Là.
Mm-hmm.
Puis c'est comme toute la musique qui se fait aujourd'hui, c'est comme il y a eu le prog, puis là il y a quelque chose qui se passe après le prog. Comment on appelle ça? C'est-tu vraiment du prog? C'est une évolution? C'est-tu un mix avec d'autres choses? Fait que, nous autres, pour cet album-là, surtout le deuxième album, Desolation, on a intégré beaucoup d'influences cinématiques. Francis Grégoire, le claviériste, c'est ça, il a travaillé beaucoup pour faire des gros arrangements de cordes, puis vraiment avoir du sound design dans les pièces, puis il y a vraiment une espèce de, c'est ça, d'éléments de musique de film qui est présent. Fait que c'est pour ça qu'on s'était tourné vers Cinematic Rock. C'est sûr que là, bon, ça reste du prog, tant qu'à moi, mais c'est peut-être moins trompeur pour les gens qui s'attendraient à entendre, par exemple, peut-être du Genesis en allant écouter cette musique-là. C'est pas du Genesis, ça, c'est sûr.
Trouves-tu qu'il y a un certain... vas-y, Phil. Vas-y,
ben, juste pour la question du fameux « qu'est-ce que c'est du prog » tout ça, ben, Carl et moi, on a déjà eu une discussion là-dessus sur le podcast, on en est venu à la conclusion que c'est plus une philosophie qu'un son, le prog, finalement, t'sais. Je pense que si quelqu'un se dit « moi, j'écoute, j'aime le prog parce que j'aime vraiment le son de Genesis, puis c'est tout », ben, je pense que c'est plus un fan de Genesis qu'un fan de prog rendu là, t'sais. Mm-hmm. Un fan de prog, Salem, Frank Zappa, Jethro Giant, puis Yes, c'est des groupes qui sont super différents, ou des musiciens qui sont différents, puis c'est après du prog, ben, Zappa, c'est-tu du prog, c'est une discussion, mais fait que je pense que c'est plus l'idéologie de pousser le rock vers ses limites, ou d'avoir un... Il y a plein de choses, d'avoir des chansons plus longues, de la complexité pour le plaisir que ça soit complexe, ce genre de trucs-là, pour exprimer des choses. Puis... Fait que si tu dis que vous faites du prog, vous en faites, moi je veux dire, c'est à vous de nous le dire, c'est comment vous voyez ça, votre musique, je pense qu'il faut pas s'enfermer dans ces termes-là trop non plus. Là.
Non, c'est ça, mais si c'était une décision, je pense qu'on va toujours dire qu'on fait quand même du prog et tout ça, mais on avait décidé pour ce deuxième album-là d'y aller vers Cinematic Rock. Donc, Cinematic prog metal, on peut le caractériser de différentes manières. Là.
Vraiment, j'écoute ça.
On le sent vraiment dans la pièce de Library, qui est vraiment un chef-d'œuvre, ceci dit. Énorme. C'est vraiment une des pièces que j'aime beaucoup. Vraiment. En fait.
J'ai peut-être des petites questions aussi encore, si tu me permets, Carl. Rapidement, là. Écoute, moi, je suis guitariste, mais très, très amateur. Si toi, ils t'ont donné le titre de guitariste amateur, j'aimerais pas savoir c'est quoi le titre qu'ils m'ont donné. Mais j'aimerais savoir ta routine de pratique quotidienne, ça ressemble à quoi, toi?
En fait, ça a beaucoup changé dans les dernières années, parce que c'est ça, j'ai eu des blessures au bras. Je sais pas si on peut appeler ça des blessures, mais une condition, disons, qui fait que j'avais des douleurs chroniques dans les deux bras. Là, ça va beaucoup mieux aujourd'hui, mais je suis encore en train de travailler là-dessus, puis c'est comme quelque chose qui va se guérir sur le long terme, disons, mais ça va beaucoup, beaucoup mieux. Là. Mais c'est sûr que dans les dernières années, je ne peux pas me permettre, disons, de pratiquer 2 heures le matin, après ça, travailler pour mes gigs, puis après ça, aller jouer le soir, c'était pas possible. Mais je dirais que pendant longtemps, je pratiquais au moins 3 heures par jour, puis j'ai fait des journées de 6, 7, 8 heures, tu sais, ça c'est sûr. Mais pendant longtemps, j'avais au moins un bon 3 heures par jour, ça c'est sûr. À partir de secondaire 1, je pratiquais beaucoup. Donc, j'ai commencé tôt à le faire. Puis j'aimais ça.
Discipline, j'admire ça, moi, franchement. Là.
Mais ça n'a jamais été une punition. Là. Moi, j'avais juste hâte d'aller pratiquer. Puis j'étais toujours vraiment content de le faire. Puis c'est ça, ça a toujours été quelque chose qui me passionnait. Puis que, c'est ça, c'était pas un fardeau pour moi d'aller faire ça, vraiment pas.
Cool. Une autre question, je suis juste curieux parce que vu que tu es disons youtubeur, personne sur YouTube, etc., on ne sait pas comment te définir, tu sais pas toi non plus, on dirait, enfin, la chanson Haters, c'est-tu parce que, est-ce que c'est une chanson que tu dédies aux gens sur YouTube qui t'ont donné de la merde en ligne finalement? J'étais curieux de ça, c'est-tu dédié aux haters, aux trolls sur YouTube, cette chanson-là?
Un peu, même si c'est pas, je le vois pas comme une manière personnelle. Mais je trouve que c'est un drôle de phénomène de voir qu'il y a des gens que c'est comme, je sais pas, leur plaisir, c'est d'aller juste dire des choses négatives sur les autres. Là. Ça me fait un peu rire, tu sais. Puis d'ailleurs, tu sais, moi, j'en ai déjà reçu pas mal sur mes vidéos, puis je pense que tout le monde qui fait des vidéos sur YouTube...
Ah ouais, si tu t'exposes...
C'est ça, exactement. Puis tu sais, moi, ça me fait juste rire, là. Puis tu sais, je prends jamais le temps d'aller comme m'obstiner ou commenter ou peu importe, tu sais, c'est juste ça qui... C'est bon.
C'est un combat que tu peux pas gagner. Tu peux pas gagner ce combat-là.
En fait, je pense que moi, je le vois comme un signe de réussite. J'ai l'impression que quand tu commences à avoir du succès dans la vie, c'est là que tu vas commencer à avoir des haters. Comme... En tout cas, l'autre jour, j'en ai pas parlé, Gab, mais il y a un commentaire sur un post Facebook sur ma page que le gars, il a dit « Waouh, le gars prend tellement pas soin de sa guitare et il dit qu'il aime la musique. » Je vais juste vous dire, parce que c'est mon premier troll dans ma vie. C'est mon premier troll et il me fait beaucoup rire. Mais d'ailleurs, il y a une finale assez cocasse en plus dans la tune Haters que je lève mon chapeau.
Ouais, ben tu sais, il y a comme une espèce d'histoire. Au début, je me disais, bon, c'est une chanson, Angry Song, là, c'est une chanson pas contente. Ouais. Puis il y a comme une espèce de dialogue au milieu où il y a des petites, y a comme des interactions. Un petit solo de basse plus doux. Et après ça, il y a comme un gros bout vraiment élevé. Après ça, une petite passe de guitare plus douce. Après ça, un autre bout qui rentre puis qui est plus métal. Fait qu'il y a comme une espèce d'interaction comme ça au milieu qui est comme s'il y avait justement une obstination peut-être entre un haters puis un créateur de contenu. Puis c'est ça, c'est comme à la fin, justement, ça finit d'une manière un peu inattendue. Puis c'est comme si peut-être finalement le haters, il avait laissé faire. C'est pas lui qui a eu le dernier mot finalement.
Mais bon, mais en tout cas, le temps passe. Bref, merci tellement, Gab, pour ce magnifique album. Alors, pour ceux qui ont des fois été sur YouTube, on change vite de section. Mais si vous êtes rendu là et vous n'avez pas entendu le nom de l'album, ça s'appelle Spectrum Exploration 1, ou en bon français, Spectrum Exploration 1. Ça se trouve sur quoi, Bandcamp et toutes les plateformes en ligne, Gab?
Ouais, pas mal sur toutes les plateformes, là, Spotify, iTunes, Amazon. Je crois qu'il n'est pas sur Google Play ni YouTube Music, parce que je voulais les mettre disponibles sur ma propre page YouTube Music. Ben, parfait. Ma propre page YouTube.
Ouais.
Alors, allez écouter ça si vous voulez de la bonne musique instrumentale. Moi, j'écoutais ça en travaillant beaucoup. Ça m'aide beaucoup à me concentrer de la musique comme ça. Puis ta musique, ça l'a fait cet effet-là. Pour vrai, là. Fait que ouais, je voulais vraiment saluer cet album-là. Franchement, c'est du beau travail. Je sais pas si tu, une fois que tout va repartir, parce que pour ceux qui nous écoutent dans le futur, on est encore en quarantaine en ce moment. Je sais pas si tu voulais faire peut-être une tournée pour souligner cet album-là. Est-ce que tu avais planifié ça peut-être dans un futur?
En fait, c'est ça, comme là, pour l'instant, c'est un EP de 4 pièces, je pense pas pour cet EP-là faire une tournée, là, proprement dit, mais en fait, je suis en train de composer mon deuxième, donc Spectrum Exploration 2, puis c'est ça, je pensais faire, à partir du moment où je vais avoir deux EP, là, je pourrais peut-être commencer à faire des concerts, puis envisager de faire des petites tournées, ou c'est ça, commencer à me produire live.
Puis y a-t-il une raison pourquoi tu choisis la formule EP, et non pas faire des LP, des albums plus longs?
Oui, en fait, il y a plusieurs raisons à ça. C'est que pour avoir fait justement deux albums avec Universe FX, je sais que c'est des grosses bouchées faire un album, surtout quand t'es indépendant. Puis d'autant plus que là, c'est un projet solo, donc c'est moi qui fais tout. Donc, évidemment, il y a eu des musiciens qui ont joué sur l'album, comme à la batterie, puis tout ça. Mais tout ce qui est la composition, les pré-productions, c'est tout moi qui va faire ça, puis toute la gestion aussi du projet. Donc, je trouvais que de faire des EP pour commencer, c'était peut-être des objectifs plus réalistes.
Bite size, comme ils disent.
Ouais, puis ça permet aussi de sortir du matériel plus souvent. Au lieu d'avoir un album, tu sors l'album, puis là, bon, tu sors un ou deux singles, tu as des vidéos, puis après ça, il se passe rien pendant 2 ans. Ben, je trouvais que de sortir un EP, puis après ça, 6 mois plus tard, 8 mois plus tard, de sortir un autre, puis après ça, peut-être de sortir un single, puis tu sais, je trouvais que de sortir du contenu plus fréquemment, c'était plus intéressant pour. Disons, le format avec les médias sociaux, puis ma chaîne YouTube, puis tout ça. Pour le format
dans l'ère numérique, c'est plus accessible, peut-être. Ça garde le contact avec aussi les fans. Ça les garde engagés dans ton art.
Oui, exactement.
Cool. Très, très logique. Alors, merci beaucoup. Et pour la deuxième partie de cet épisode, c'était notre classique top 5. Et c'est moi qui ai choisi le top 5 aujourd'hui. En fait, on l'avait pas annoncé, mais c'est que je sais que Gab a été t'étais un fan de ce groupe-là étant adolescent, et moi aussi d'ailleurs, et ça me tentait de faire un top 5 sur ce groupe, alors on a décidé de faire un top 5 sur les albums du groupe Dream Theater, groupe que je considère super important dans l'histoire de la musique. Avant de commencer, en fait, on va te laisser commencer avec ton numéro 5, Gab, mais parle-nous juste un peu pour toi, comment ton histoire avec le groupe, comment ta relation d'amour avec eux, comment ça a commencé?
Oui, ben en fait, Dream Theater, ça a été le premier groupe que j'ai écouté. J'étais quand même assez jeune, mais ça a été le premier groupe de musique complexe, si on veut, que j'ai entendu, avec des gros solos de guitare, des gros solos de keyboard, de la musique vraiment, là, vraiment, vraiment complexe. C'est un de mes oncles qui est musicien, qui joue de la basse, qui m'avait fait entendre ça. Puis la première fois que j'ai entendu, je jouais pas encore de musique. J'ai commencé un peu après à jouer de la basse puis jouer de la guitare. Mais j'ai toujours été fasciné par justement le jeu de John Petrucci qui était vraiment là,
virtuose.
Autre chose que tout ce que j'entendais à cette époque-là. Tu sais, à l'époque, j'écoutais plutôt, disons, du Green Day ou Blink-182. Fait que c'était vraiment autre chose.
On est ailleurs.
Ouais, fait que oui, c'est un groupe qui m'a très certainement marqué. Puis, autant personnellement dans mes goûts qu'au niveau de mon cheminement musical, je pense que ça m'a comme apporté une certaine motivation de vouloir faire ces choses-là, vouloir faire ces pièces-là qui sont vraiment techniques pour être capable de les jouer.
Mm-hmm. Et quel est ton numéro 5?
Oh, attention. Donc, le numéro 5, c'est l'album Awake.
Mm.
Donc, j'ai choisi cet album-là. C'est pas facile quand même les placer en ordre, là.
Mm-hmm.
Mais c'est sûr qu'elle est dans mon top 5, cet album-là. Donc, je trouve qu'il y a un son vraiment spécial.
Mm-hmm.
Awake, il y a vraiment une vibe à lui, cet album-là. Je trouve pas qu'on retrouve ça sur vraiment d'autres albums de Dream Theater.
Je suis d'accord, ouais. Il y a vraiment son cet album-là.
Ouais. Puis c'est comme le dernier album aussi où James Labrie chante vraiment rauque. Il y a eu Images and Words. Falling into Infinity, il chante encore rauque, mais pas autant que sur Awake. Je pense qu'il y a eu une blessure. Je sais pas, peut-être qu'un de vous deux pourra m'éclairer là-dessus. Mais je sais qu'il y avait eu des problèmes de gorge à un moment donné dans sa carrière. Puis là, il a fallu qu'il chante différemment. Là.
Ouais, puis il y a des gens que j'avais lu que. Ouais, je regardais un peu sur YouTube, je lisais les commentaires, tout ça pour m'inspirer pour le top 5. Je suis beaucoup moins familier que le groupe que vous deux, je pense, là. Mais ce que le monde disait, c'est qu'il y avait eu une inflammation, quelque chose. Puis
ouais.
Certaines personnes disent qu'il aurait dû prendre un break, mais il n'a pas vraiment pris le temps nécessaire. Donc peut-être que sa voix n'a jamais été la même. Parce que je veux dire, si on compare Imagine World, puis ne serait-ce que 6-7 ans plus tard, il y a une différence assez importante. Là, donc,
ben oui.
Je sais pas s'il le regrette.
Puis il y a plein de bonnes pièces sur cet album-là. J'aurais de la misère à en choisir une. C'est sûr, il y a une pièce instrumentale qui est Erotomania, que j'ai toujours beaucoup aimée. Mais sinon, il y a vraiment Covin a Web, c'est vraiment hot. Innocence Faded, il y a un bout absolument incroyable de guitare dans cette pièce-là. Donc, non, vraiment un bon album.
Je pense qu'on va sûrement en reparler plus tard. Donc, je pense que ça va être une discussion en évolution sur Awake, parce que moi aussi, c'est un album que j'aime beaucoup. Mais j'en dis pas plus. Très bon choix. Moi, ça m'amène à mon numéro 5, qui est un choix un peu, peut-être pour certaines personnes, ça va être un choix un peu épicé, mais moi, c'est certainement l'album qui m'a fait rentrer dans le groupe. J'ai eu une phase Dream Theater, moi, quand j'étais ado, quand j'avais 15-16 ans. C'est un des premiers concerts comme sérieux que j'avais été voir avec mon père. C'était un concert que je me souviens, je vous avais vu à l'Expo Québec. Et c'était la tournée de cet album-là. Et d'ailleurs, il y avait une pièce que... En tout cas, je vais vous dire le nom, puis je vous en parle après. C'est l'album Systématique Chaos.
Mm-hmm.
J'aime beaucoup cet album-là pour différentes raisons. Pour moi, c'est dans la liste des derniers albums de... C'est le dernier album de Dream Theater dans les derniers qu'ils ont fait, que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Après ça, les albums qu'ils ont fait après, peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter, mais ils m'ont moins touché. Mais cet album-là, je trouve qu'il y a vraiment des pièces que j'adore, dont la pièce Constant Motion, qui est sûrement une des premières pièces de Dream que j'ai jouées chez nous pour mon plaisir. J'ai une drôle d'histoire. J'ai une relation amoureuse avec cette pièce-là parce que je l'avais jouée à un concert étudiant avec un autre guitariste. À l'école, je prenais des cours puis on s'était vraiment plantés. Mais pas grave, j'aime beaucoup cette pièce-là. Puis,
pas facile à jouer.
Je trouve l'album, en tout cas, commence en force. T'sais, In the Presence of the Enemies, qui est vraiment une sacrée pièce. Forsaken, Constant Motion, puis The Dark Eternal Night, qui est aussi assez incroyable. Le reste de l'album, je le trouve très bon aussi, mais c'est moins des pièces qui m'ont touché, je trouve. Mais je trouve vraiment l'album est très solide. Et non, c'est vraiment... J'aime le son de l'album aussi, en général. Je trouve... Ça se peut-tu, je pense, c'est le premier album qu'ils ont fait avec c'est qui dans leur nouvelle compagnie dans ce temps-là? C'est-tu le premier album avec
Roadrunner?
Oui.
C'est ça.
Je pense que oui.
C'est un autre. Il s'enlève vers autre chose, je pense. Mais j'aime quand même beaucoup cet album-là.
Ouais, bon choix.
Moi, avant, disons, au numéro 5, ça, j'aimerais. Disclaimer. Moi, je suis pas un grand fan de Dream Theater. J'avais juste écouté deux albums avant de faire mon top 5. Puis, je me suis tapé tous les albums en deux semaines. Presque tous écoutés deux fois chaque.
Wow.
En ce moment, je suis plus capable d'écouter ce Dream Theater. Je suis épuisé. Mais ça a été vraiment une belle expérience. J'ai pas écouté le premier avec l'autre chanteur parce qu'il était pas sur Spotify.
Ouais,
puis, je me suis... Non, mais je sais pas comment il s'appelle. When the Day and the Dream United. Je sais pas comment il s'appelle. En tout cas, c'est comme un gars sur le cover. Là. J'ai pas écouté celui-là. Je sais pas. Peut-être que j'ai vraiment manqué quelque chose. Peut-être qu'un de vous là, dans votre top 5, on aura l'occasion de s'en reparler. Mais Fait que juste pour dire, moi, j'ai découvert ce groupe-là en achetant un album que j'ai au secondaire aussi. J'ai eu une petite phase aussi avec les deux albums que j'avais achetés. Puis, j'ai vu un spectacle deux fois. Puis, après ça, j'ai comme arrêté d'écouter ça. Je sais pas pourquoi ni comment. Mais c'était le fun d'y replonger. Puis, mon numéro 5, c'est un de ces deux albums-là que j'avais acheté à l'époque. C'est Black Clouds and Silver Linings. Donc, lui, je l'avais reçu en cadeau de ma mère, à vrai dire. Elle savait que j'écoutais ça à ce moment-là. Il venait de sortir. Là. C'est un des albums vraiment que j'ai acheté à sa sortie. Puis je me souviens d'avoir vraiment aimé. Puis c'est un des rares. C'est quelque chose que je veux dire aussi. Que c'est un des rares albums que j'aime tout l'album, ou presque. J'aime pas beaucoup les ballades de Dream Theater. C'est juste que j'ai de la misère avec leurs ballades. J'aime pas beaucoup James Labrie. C'est ça l'affaire aussi. J'aime pas beaucoup sa voix. Je trouve qu'il tombe souvent dans le quétaine. Je vais me faire haïr pour dire ça. Là. Moi, je suis comme le hater du podcast. C'est comme moi qui ai des opinions négatives. Là. Mais j'aime beaucoup la suite des cinq chansons, là, Glass Prison, puis A Nightmare to Remember, ces chansons-là. Puis The Shattered Fortress, je l'aime vraiment beaucoup. Nightmare to Remember, c'est épique. Count of Suscany, j'aime vraiment beaucoup cet album-là. Je pense que Best of Time, c'est un des meilleurs solos de John Petrucci. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Mais dans tous les cas, la chanson que moi je recommande pour l'album, c'est A Nightmare to Remember. Je pense que ça ouvre l'album vraiment très bien. Ça a toute qu'une ambiance. Puis je pense que c'est un album qu'on parle pas assez souvent. Puis voilà, je le souligne avec mon numéro 5.
Super. Fait que là, ça serait à moi pour le numéro 4, je crois.
C'est ça, ouais.
Ben, en fait, juste avant de passer à ça, moi, je dois dire que c'est un album que j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai passé proche de le mettre dans le top 5. Mais. Ça pour Black Clouds, je le trouve un petit peu inégal.
Okay.
Autant il y a, pour mes goûts, autant il y a des pièces que j'adore, comme The Count of Tuscany, c'est une de mes pièces préférées du groupe, vraiment, vraiment magnifique. Mais il y a des pièces que j'aime un petit peu moins, comme. J'ai plus les noms en tête. Ouais, justement, la balade là, qui est Wither.
Ben, Wither, ouais, ça, je trouve ça. Ouais.
Qui peut un petit peu moins. Puis A Rite of Passage est bonne, mais ça vient peut-être moins me chercher un petit peu. Fait que. C'est ça. Je me disais, pour que ça dans mon top 5, il faut que pas mal tout l'album, je le trouve bon. Tu sais.
Mais le son de l'album est écœurant, par exemple. Sérieux,
le son est incroyable.
Très bien produit. Hein.
L'intro de l'album, sérieux, ça rentre au poste. Moi, je pense que cet album-là, je l'ai moins réécouté parce que je l'avais vu. On a sûrement vu le même concert. T'étais-tu aussi, toi, Gab, le concert qu'il avait fait à l'Agora?
Je l'ai pas vu à l'Agora. Moi, j'ai manqué.
Moi, j'ai vu ce spectacle-là, ouais.
C'est drôle parce que ce show-là, naturellement, c'est des très bons musiciens, donc c'est quand même bon, mais j'ai trouvé que c'était pas leur meilleur show. J'ai trouvé qu'ils étaient un peu désintéressés, ce show-là. Mais c'était un peu avant, on était proche de la séparation aussi, là, fait que...
Ouais.
Mais, tu sais, il y avait le fils à Frank Zappa qui faisait l'hommage à Zappa pour les Zappa, et j'avais mieux aimé ça, mais bref.
Ouais, moi aussi. Mais...
Mon commentaire. Ton numéro 4, mon gars.
Yes, alors l'album Train of Thoughts. Donc... en fait, c'est un album qui est sorti. Attends, je vais aller chercher des informations.
C'est-tu 2002-2003 à peu près?
2003.
Je pense que c'est un des albums les plus metal, si on veut, de Dream Theater. Ouais. Comme heavy metal, là, qui est vraiment très pesant. Puis, je dirais que le clavier a peut-être un rôle un peu différent sur cet album-là. Peut-être un petit peu moins présent. Quoique, souvent, il va jouer les riffs avec les guitares et faire sonner les guitares super larges. Donc, il est quand même là. Mais non, c'est un album que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. As I Am, qui est une des premières pièces que j'ai entendu de Dream Theater aussi, puis que j'ai joué d'ailleurs aussi. Puis c'est ça, l'album, celui-là, je le trouve bon du début à la fin. Il n'y a pas une pièce que j'aime pas. C'est vraiment, ouais, comme un super album.
Je pense As I Am, en fait, c'est une de leurs classiques live. Ils la font tout le temps à chaque concert, si je me trompe pas. Là. Moi, en tout cas, à chaque fois que je les ai vus, ils l'ont fait.
Ouais, ça revient souvent, effectivement.
C'est un de leurs hits. Là. En effet, c'est un album. Moi, en tout cas, quand je l'ai réécouté il y a pas longtemps, j'ai fait OK, wow, OK, cet album-là, c'est vraiment la vibe rock qu'ils ont été. Hein, fait que, en fait, je pense que c'est l'année que Petrucci a coupé ses cheveux. Ça doit avoir un lien, je sais pas. Genre.
Non, mais je pense qu'il y avait des cheveux courts à Six Degrees.
Pour vrai, ça se peut. L'album ça se peut. Pas possible. Mais cool, bon choix. Moi, en fait, mon numéro 4, ce n'est pas Train of Thought. Moi, c'est l'album d'après. Je pense que c'est Octavarium. Non, oui, c'est l'album d'après. Oui, alors c'est Octavarium. C'est drôle, cet album-là, ça a pris du temps avant que je l'écoute au complet dans ma vie. Ça fait pas si longtemps. J'ai souvent écouté différentes pièces à différents moments. Mais c'est vraiment un sacré bon album. Personnellement, moi, je trouve que c'est... Il y a peut-être quelques pièces... On en avait jasé un peu, je pense, Phil, il y a pas longtemps. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être quelques pièces, des fois, que c'est un petit peu inégal. Mais
Ouais. Ça défaut, je trouve que le groupe a souvent, personnellement. Là,
mais c'est des longs albums.
Ouais, c'est ça. Ben justement, tu sais, enlever les mauvaises chansons, tant qu'à ça, je sais pas, là, c'est pas nécessaire.
Mais c'est que c'est des longs albums, ben, c'est des longues pièces. Ouais. Mais naturellement, en tant que bassiste, moi, ma tune préférée sur cet album-là, parce que je l'ai écouté tellement quand j'étais ado, c'est Panic Attack. J'aime vraiment beaucoup cette chanson-là. Et The Root of All Evil, qui est vraiment une très belle pièce. C'est quoi dans la balade qu'il y a sur cet album-là aussi?
Walk Beside You.
Exact, merci. Mais oui, vraiment, je pense Panic Attack puis The Root of All Evil qui sont vraiment mes pièces préférées sur cet album.
Moi, ça a failli faire mon top 5. C'était mon numéro 6. J'hésitais entre les deux. C'est l'album qui m'a comme rentré dans le groupe. Mais à cause de I Walk Beside You puis une autre chanson que j'ai oublié, que je trouve comme je veux jamais les entendre, les réentendre, ça me fait chier parce que j'aime beaucoup la chanson de 24 minutes. Mais je suis sûr qu'on en parle pas si souvent que ça. La chanson que tu as regardée, moi je trouve épique. C'est, j'adore cette chanson-là. C'est, elle est vraiment plus rock et moins métal un peu aussi, je pense. Plus un hommage peut-être au vieux prog. Peut-être pour ça que ça connecte plus avec moi aussi. Mais ouais, Root of All Evil, c'est un des meilleurs débuts d'album, à mon avis, de Dream Theater. Le riff de drum, le trum-trum-trum-trum. En tout cas, ça revient à d'autres chansons aussi. Non, c'est vraiment cool cet album-là, j'adore, franchement.
Mm-hmm. Cool. Et toi, mon Phil, ton numéro 4?
On a un premier crossover au même numéro. Moi aussi, mon numéro 4, c'est Train of Thought. Je l'avais jamais entendu, cet album-là. Donc, c'est un de ceux que j'étais nouveau. Je connaissais As I Am, parce qu'en effet, c'est une de leurs plus connues. Mais je suis d'accord avec toi, Gabriel. C'est un des albums les plus égales, je pense aussi. Là. L'ambiance, elle reste, mais sans non plus overstay its welcome, comme ils disent en anglais. Je pense que Stream of Consciousness, c'est vraiment malade. Encore une fois, j'aime pas tant James Labrie, fait que pour moi, c'était vraiment incroyable d'entendre cette chanson-là. Puis In the Name of God, bon, les paroles sont très, très, très religieuses. Personnellement, je suis pas fan de musique qui parle de Dieu puis tout. Mais pour ce qui est de la musique, puis à part les paroles, pour tout le reste, c'est une excellente chanson. C'est un 14 minutes qu'on va pas passer, franchement. J'ai vraiment aimé cet album-là. Surprise, c'était une surprise pour moi. On m'avait dit que c'était comme il s'approchait plus de Metallica, le truc comme ça, qui est un groupe que j'aime pas tant que ça. Puis je suis arrivé dans cet album-là avec un peu d'appréhension. Ça m'a, j'ai vraiment aimé ça. Fait que puis ma chanson que je recommande, moi, c'est Stream of Consciousness.
Super, excellent choix. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, c'est drôle, juste avant de continuer, tu parlais des paroles. Moi, c'est drôle, dans Dream Theater, ça n'a jamais été un groupe que j'ai vraiment porté attention beaucoup aux paroles.
Ben, je porte jamais attention aux paroles en général, mais là, c'était tellement intense, je trouve. Là, je fais comme pas l'entendre, tu comprends?
Ouais. Mais c'est ça, c'est tellement. Je sais pas, il y a tellement plein de choses. J'entends plutôt la mélodie que la voix va faire, plus que vraiment ce qu'il va dire. En général, il y a des pièces ou non, on écoute ce qu'il dit. Là, mais
Non, ben, je suis vraiment comme toi, que je te dirais comme 95% du temps, mais sur cette chanson-là, ça m'a comme accroché. Là, mais ça reste une excellente chanson que je suggère à tout le monde.
OK. Donc là, moi, je suis rendu à mon numéro 3, qui est l'album juste avant Train of Thought, qui est Six Degrees of Inner Turbulence, un album double qui est sorti en 2002. Puis c'est un album que j'aime vraiment beaucoup. C'est sûr qu'il y a beaucoup de stock, là, c'est un album assez long. Mais il y a des pièces tellement fortes. Là. The Glass Prison, c'est incroyable comme pièce. C'est vraiment épique. Puis c'est ça, j'aime bien le son de l'album aussi. Puis il y a plein de moments qui sont vraiment, vraiment... vraiment hot. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Bon, Blind Fate, c'est vraiment incroyable. The Great Debate, c'est vraiment... J'écoutais ça, là, en soupant tantôt. C'est vraiment bon. About to Crash Reprise, qui est l'avant-dernière pièce sur le deuxième disque, qui est vraiment, vraiment bonne. Chanson que j'aime beaucoup.
Ouais. Qu'est-ce que tu penses de la fameuse suite de 42 minutes? Est-ce que tu penses que ça vaut le... Est-ce que tu suggérais à nos auditeurs de prendre 42 minutes pour s'asseoir et l'écouter?
Ouais, ben je pense que ça vaut la peine, ces genres de pièces-là, de les écouter d'un bout à l'autre. Malgré que les pièces sont bonnes quand même si on les écoute une à une, mais c'est le fun d'avoir un ensemble. Puis moi, en général, avec les albums, je suis comme ça. Là. Je trouve que pour vraiment apprécier un album, il faut l'écouter d'un bout à l'autre.
Je suis 100% d'accord.
Que ce soit un album concept ou pas, moi je pense que c'est. L'artiste a pensé un certain équilibre entre ses chansons, puis un certain ordre, il y a comme un.
Absolument.
Il y a comme une, comment je pourrais dire, une certaine dynamique dans l'énergie qui va se faire au fil d'un album. Puis je trouve que c'est, moi, c'est là que j'ai eu les meilleures expériences, en tout cas. C'est quand j'écoutais, tu prends une paire d'écouteurs ou même dans un char, là, quand tu fais de la route, Carl connaît ça. Ouais. Un album, d'écouter ça du début à la fin, c'est génial.
Bad Dream pour des voyages de char, c'est quand même. Il y a certains albums qui sont vraiment le fun pour eux.
Ah oui.
Mon prochain numéro, c'en est un, mais non, je trouve que des affaires de rock en général, c'est des. Ton album d'ailleurs aussi, Gab, je vous le disais tantôt, bon album de char. Mais ouais, mais en effet, moi, Six Degrees, c'est drôle, c'est un des albums que j'ai le moins écouté de Dream. J'ai écouté vite, je me suis pas tapé les 42 minutes, malheureusement, excusez-moi les gars. Mais non, c'est mais il faudrait que je réécoute, je pense. Mais c'est un excellent album. Mais cool. Ça m'amène à mon numéro 3, les gars, qui est comme sûrement pas mal un des albums les plus classiques de Dream. C'est Image and Words. Je pense, moi, je trouve que c'est pas mal le premier album. Il y a l'autre d'avant, When Dream and Day Unite, que tu parlais tantôt. Film, mais je pense que c'est pas mal leur premier grand succès et sûrement leur plus grand succès, cet album-là, avec peut-être Metropolis, partie 2. Mais décemment, ça a vraiment starté le band. Et j'ai l'impression que ça a vraiment amené quelque chose de nouveau, cet album-là. Qu'il n'y avait pas vraiment de band qui faisait ce genre de musique complexe qui mélangeait le métal, le progressif et toutes sortes de trucs. Et comme j'ai dit au début de ce segment-là tantôt, moi je trouve que Dream, c'est vraiment un des bands les plus importants dans l'histoire du prog des 20-30 dernières années, dans le sens qu'il y a beaucoup de groupes qui se sont tellement inspirés ou qui en ont beaucoup écouté, qui sont venus après. Bref, c'est vraiment un groupe qui a eu de l'importance. Et dans cet album-là, qu'est-ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est vraiment étrangement un album assez rock aussi, pas juste metal. Et il y a vraiment des tunes incroyables là-dessus, comme Pull Me Under et Under a Glass Moon. Et je ne savais pas, mais en regardant sur Wikipédia en ce moment, la pièce Learning to Live, c'est John Myung qui aurait écrit les paroles. Alors, bravo John Myung. sûrement le musicien qu'on parle le moins dans le band et qui est bassiste, mais c'est drôle parce que son rôle dans le groupe a toujours été spécial. Ça a l'air d'un homme très réservé, et même à chaque fois que je les vois en concert, rarement qu'on entend la basse très forte, en tout cas, mais c'est un sacré bon bassiste. Très bon album. Alors, Image and Word, c'est mon numéro 3.
Ben, c'est le classique des classiques, hein. On va sûrement avoir l'occasion d'en reparler.
Mais trouvez-vous qu'on parle pas assez de John Myung? Du moins, on le voit pas assez, à mon avis.
C'est quelque chose qui me surprend, parce que c'est clairement un bon musicien. Puis je pense que c'est bon dans du bon métal, c'est le fun d'avoir de la grosse base grasse. Puis peut-être une opportunité manquée, je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, Gabriel?
Ouais, je sais pas. Je me dis en même temps, c'est peut-être le son du groupe qui est comme ça. C'est la base, c'est plutôt en support de la guitare. Je veux pas, John Petrucci a tellement une grosse place dans le groupe que peut-être c'est leur façon à eux d'avoir un équilibre là-dedans, tu sais. Mais oui, ça peut. C'est sûr que moi j'aime beaucoup la basse. J'aime bien les bands qui mettent la basse aussi en avant-plan quand même. Mais ouais, je pense que ça fait partie de leur son, tu sais, c'est comme ça.
Puis ça va avec la personnalité aussi, on dirait, de John Myung, qui a l'air très réservé, là, qu'on l'entend moins souvent parler. Bref.
Il remplit la caricature un peu du bassiste effacé. Là.
Oui, exactement. Mais,
à la connaissance un peu. Là.
Super technicien, t'es quand même pour jouer les lignes de Petrucci. Doubler les lignes de Petrucci, en tout cas, bref. Et je voulais dire aussi, sur Image and Word, il y a Kevin Moore qui a joué sur Awake et Image and Word, qui est étrangement, moi, dans mes claviéristes préférés de Dream Theater. Mais j'aime vraiment beaucoup, même si c'est des sons de ces époques-là, on s'entend, mais j'aime vraiment beaucoup les textures qu'elle a cherchées.
Il apporte vraiment quelque chose d'intéressant au groupe, je suis d'accord.
Ben, c'est peut-être moins dans la virtuosité de Jordan Rudess, même s'il est très virtuose, mais c'est vraiment, j'aime son ton. Bref, on aura sûrement l'occasion d'en reparler, mais je m'aventurerai pas parce que le temps file. Alors, file justement, ton numéro 3.
Moi, je commence à m'inquiéter qu'il y a peut-être eu un espion qui soit venu chez moi pour copier ma liste, parce que mon numéro 3, c'est aussi Six Degrees of Inner Turbulence. je te demandais ça parce que la chanson de 42 minutes, parce que je ne dis pas que je l'appréhendais, mais j'ai un de mes excellents amis du secondaire, d'ailleurs, si tu nous écoutes, François, je te salue, qui est un grand fan de Dream Theater, puis qui m'avait dit, je me souviens à l'époque, peut-être qu'il a changé d'idée là, depuis ce temps-là, mais qui m'avait dit « Six Degrees, le 42 minutes, c'est pas super, ça vaut pas la peine, en tout cas. » Fait que je voulais l'acheter parce que j'étais dans une époque prog, puis je voulais vraiment, comme, j'aimais les longues chansons, puis j'étais vraiment là-dedans, tu sais. Puis je m'étais comme finalement, je l'avais pas acheté, c'est à cause des commentaires qu'il m'avait donné, puis finalement, je l'avais juste jamais écouté. Puis finalement, pour cet exercice-là, j'ai écouté cet album-là, puis moi, je l'ai adoré, puis j'ai pas grand-chose à ajouter sur ce que tu as dit. The Glass Prison, c'est incroyable. Je pense que c'est une de leurs meilleures chansons de tout leur catalogue. Moi, je pense que les 42 minutes vaut vraiment la peine d'être écouté. C'est une très, très belle chanson ou suite. Je sais pas comment on pourrait écrire ça. Je pense que ça en vaut vraiment la peine. Puis la chanson Misunderstood aussi, j'adore cette chanson-là. Fait que, ouais, ça ressemble pas mal à ça pour Six Degrees of Inner Turbulence, mon numéro 3.
Mmh. Bon, ben, coudonc, fait que là, j'ai hâte de voir mon numéro 2.
Ouais, je t'inquiète, là.
Ok, donc, ouais, le numéro 2, je pense que c'est un album, c'est un incontournable de Dream Theater. Je pense que c'est rare les fans de Dream qui n'aiment pas cet album-là. C'est Images and Words.
Ah ben, Word, Colin, David.
Donc, comme Carl en a parlé, moi, je pense que c'est un album, c'est là, ben, en fait, c'est l'album qui a lancé Dream Theater, si on veut. Mm-hmm. Ça a été marquant pour leur carrière. Il y a plein de pièces super connues, comme Pull Me Under, Another Day aussi, qui est quand même vraiment connu. Mm-hmm. Metropolis.
Le saxophone, c'est-tu dans le 2 qu'il y a du saxophone?
Oui, exact.
Ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé qu'il garde, je pense. J'adore ce passage de saxophone-là. Puis c'est...
Ah oui?
Je trouve ça vraiment cool, parce que je n'étais pas habitué à avoir ça dans du Dream Theater. J'étais plus habitué à l'époque Octavarium, Black Cloud. J'étais, hey, du saxophone, tabarouette.
Ah, il y en a peut-être qui trouvent que c'est cheesy, tu sais, dans Another Day, mettons, mais moi, je trouve que c'est du bon cheesy, en tout cas.
Oui, je trouve que ça s'applace totalement dans la chanson.
Ah oui, vraiment. Mais moi, si j'avais... Je pense que ma chanson préférée, ça va rester Under a Glass Moon, quand même, sur cet album-là.
Mm-hmm. Très belle pièce.
Bon, sur le guitar aussi, tu me souviens bien.
Mm-hmm. Ah oui, vraiment. Puis il y a Take the Time aussi. C'est dur à dire. Encore une fois, un album très, très fort. Il n'y a pas vraiment de pièce que j'aime pas, tu sais. Ouais. Très, très, très fort comme album. Fait que, Carlos, je te laisse la place.
Ben, moi, je trouve une des forces de Image and Words, c'est son temps aussi. Contrairement aux autres albums qui durent d'habitude une heure et quart et plus, je trouve cet album-là en bas d'une heure. Ce qui est, moi, personnellement, c'est important pour moi aussi le temps de l'album. T'sais, une heure et quart de concentration, c'est quand même beaucoup.
Ouais.
Je trouve en bas d'une heure, c'est en tout cas, j'aimais bien ça. Moi, pour moi, on va peut-être avoir le même top 3 qui se ressemble un peu, les gars. Mais moi, mon numéro 2, du moins, c'est Metropolis Part 2. Scène d'une mémoire. Alors, Scène from a Memory, qui est sûrement aussi un des albums qui m'a rentré dans le band. Moi, j'avais le DVD, la fameuse image avec le gars avec plein de trucs. T'sais. Et c'est drôle, en allant lire sur l'album il n'y a pas longtemps, j'avais jamais vraiment compris l'histoire derrière. Parce qu'il y a une histoire, c'est un album concept d'un gars qui est hypnotisé, je sais pas trop, mais la performance live, du moins le show live que j'avais vu, la performance des musiciens était excellente. C'était assez fou. Moi, je trouve que c'est comme, pour moi personnellement, c'est comme l'époque d'apogée. Fin 90, début 2000, il était vraiment en shape, les gars. Puis, non, c'est, je veux dire, la composition de cet album concept-là, un peu. Il y a toutes sortes de mélanges de styles. Il y a un peu il n'y a pas une chorale, une chanteuse au début. C'est au début avec les paroles. C'est un des rares albums de Dream qui commence pas avec quelque chose de vraiment intense ou un solo drum ou quelque chose. Ça commence avec genre juste la pièce Regression qui est comme c'est les fameuses paroles. C'est quoi donc? C'est, qu'est-ce qu'il dit le gars? C'est en tout cas Bright Lights. Là, il parle des lumières. Là, mm-hmm. Mais qui a été un long inside joke avec des musiciens avec qui on joue avec Gab. Mais. C'est un excellent album, en tout cas. Et je voulais juste dire aussi, sur le DVD live, il y a une pièce qui font, qui n'est pas sur cet album-là, mais qui s'appelle A Change of Season. Et je suis triste parce que cette pièce-là, c'est une de mes pièces préférées de Dream Theater. Elle se trouve seulement sur un EP avec des plein de covers. Et pour ça, je ne l'ai pas mis, mais je voulais juste dire que j'aime beaucoup la pièce A Change of Season. Alors, mon numéro 2, Metropolis, partie 2.
Mon numéro 2, c'est Images and Words. Donc... j'avais jamais écouté non plus, je connaissais juste Pull Me Under, fait que ça a été l'album que j'aurais, puis je connais Under Glass Moon aussi que j'avais entendu, c'est vrai, mais donc c'est un album que j'avais hâte d'entendre, j'étais vraiment excité de l'écouter d'un bout à l'autre, une belle expérience. À première écoute, quand j'ai fait mon premier top 5 à première écoute, je pense qu'il était comme 4e ou quelque chose comme ça, puis je me suis dit je vais réécouter mon top 5, puis plus je le réécoutais, plus je l'aimais, donc c'est un album que j'ai l'impression que je vais continuer à écouter puis aimer de plus en plus. Moi, ma chanson préférée, c'est Metropolis Part 1. J'adore cette chanson-là dans l'album, vraiment. Puis, mais sinon, c'est encore une fois, c'est bon du début à la fin. Puis, je veux souligner James Avery, super voix sur cet album-là. Je trouve pas qu'il tombe dans le quétaine autant que plus tard dans sa carrière. Peut-être en a deux un peu qui est un peu plus popish, là, mais à part ça, on est plus dans la grande voix épique. Puis, j'aime beaucoup sa performance là-dessus. Donc, mon numéro 2, c'est Images and Words.
Bon, fait que là, on est rendu numéro 1, finalement, non le moindre. Donc, moi aussi, c'est... En fait, ben, Carl, c'était son numéro 2, mais c'est Metropolis Part 2, Scenes from a Memory. Donc, vraiment un excellent album. Puis c'est ça, tu sais, autant les pièces sont bonnes individuellement que l'album, en tant qu'album concept, est vraiment incroyable. C'est un album qui m'a marqué aussi parce que Fatal Tragedy, qui est la 5e pièce sur l'album, c'est une des premières pièces que j'ai entendues de Dream Theater. Puis c'est comme une des premières pièces qui m'a vraiment marqué aussi, comme musicien. Fait que c'est le solo de guitare et la section instrumentale dans la pièce est incroyable. Mais j'aime toute la pièce. J'aime vraiment le début plus tranquille aussi, toute l'évolution qu'il y a dans la pièce. Mais, ouais, c'est quand même ma préférée sur l'album, mais vraiment, tout l'album est excellent. Là. Je pense que Dance of Eternity est une pièce assez marquante du groupe aussi. Là. Donc, ouais, c'est ça mon numéro 1.
Moi, étrangement, il y a Ouverture 1928. J'aime beaucoup l'été avec le jeu de batterie au début. Comme de quelque chose de grandiose. Puis ça doit être une allusion aussi à la pièce Ouverture 1800. C'est, je m'en souviens plus, la pièce de Tchaïkovski. Là, mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup... Son fort, c'est les ouvertures d'albums. Faut leur donner. Ouais. Faut leur donner ça. Cool. Ben, je pense que moi, j'ai dit plein de choses. En fait, c'est le premier album avec Rudess aussi, hein, je pense, au clavier. Dans le temps qu'il y avait encore des cheveux. Là.
Oui.
Très belle performance aussi là-dessus. Moi, ça m'amène à mon numéro 1, les gars, aussi, qui est pour ceux avec qui j'ai déjà jardé de Dream Theater. Je dis toujours que c'est mon album préféré. Et ça l'est encore après l'avoir réécouté. Du moins, c'est le premier album de Dream que j'ai acheté. Et c'est l'album Awake, qui pour moi est mon album préféré de Dream. Pour plusieurs raisons. Pour justement l'introduction, la tune 6 o'clock, le beat de drum quand ça commence, moi ça avait changé ma vie en tout cas. Puis c'est drôle parce que de ce temps-ci, on voit sur Facebook plein de gens qui partagent leur album préféré. Puis il y a quelqu'un qui a partagé cet album-là, puis il a dit la même chose. Il a dit quand 6 o'clock part le drum, moi aussi ça me fascinait là, comment il jouait dans le rythme. Puis là, ça part, ça groove. Après ça, il y a Caught in a Web, c'est genre wow, genre justement assez épique. Innocence Faded, comme tu disais tantôt, Gab, qui va aussi ailleurs. Mais étrangement, les pièces que je me souviens jamais, que je me souviens le moins dans cet album-là, c'est genre toute la suite, à part Erotomania, mais A Mind Beside Itself, là, les pièces Voices puis The Silent Men. Mais moi, c'est Space Divers qui a fait, quand on avait parlé, j'avais-tu mis dans mon top 5 des meilleures ballades de prog, mais du moins, c'est dans mes ballades de prog préférées. Alors qu'il finit l'album et qui est la dernière pièce que Kevin Moore a joué avec Dream Theater, tristement. Mais alors, Awake, mon album préféré de Dream Theater.
C'en est un que j'aurais aimé ça écouter plus. Je l'ai écouté une fois, malheureusement. Première écoute, ça, il m'avait pas vraiment accroché à part quelques chansons, mais je pense que j'ai manqué de temps. Là. J'aurais peut-être dû plus l'étudier un peu. Peut-être qu'il serait retrouvé dans mon top 5. Malheureusement, j'ai pas. Ouais, mon numéro 1, finalement, on a quasiment la même liste, toi et moi, mon cher Gabriel. Moi aussi, c'est ma liste, la partie 2. Puis je me disais que c'était un choix peut-être un peu cliché, peut-être un peu facile. Mais là, je l'ai écouté peut-être 4 fois là, d'ici depuis. Puis je pense que c'est leur plus grand effort aussi. Là. Je pense que c'est un album qui est très très complet, qui est varié, qui a vraiment une direction, qui est très bien réalisé. Tu sais, encore une fois, l'ordre des chansons. Puis. T'as pas mentionné la chanson Home, mais je pense que c'en est une qui est comme. Moi, c'est elle qui m'a accroché le plus à la première écoute. Dance of Eternity, qui était elle, j'avais déjà entendu, qui est bien entendu incroyable. One Last Time, que j'ai adoré aussi. Enfin, il y a beaucoup de bonnes chansons. Je pense que c'est un album qui vaut la peine d'être écouté vraiment, vraiment d'un bout à l'autre avec une certaine attention aussi. Pour l'histoire, je sais pas trop ce qui se passe dans cet album-là, j'ai pas porté attention plus que ça. Peut-être que ça rend encore l'expérience plus formidable. Mais je pense que c'est vraiment leur album, leur effort le plus intéressant. De ce que j'ai entendu, du moins, je les ai presque tous écoutés. Puis je voulais vous demander, est-ce que vous avez écouté l'album de Astonishing?
Très peu, mais j'en ai écouté un petit peu. Mais moi, je dois avouer que j'ai un peu décroché du stock plus récent de Dream Theater. Depuis l'album éponyme, là, Dream Theater, j'aime moins un petit peu leur approche, leur esthétique, qui est comme plus moderne. Je sais pas,
c'est trop épuré ou trop manque d'organisme, d'espace organique, je pense que...
Ouais, je dirais plutôt que c'est moins organique peut-être que ce qu'ils faisaient avant. Je pense qu'ils essayent d'aller chercher le son moderne, des nouveaux groupes plus gent, plus... comment je pourrais dire que... plus produit, si on veut. Puis ouais, l'album The Astonishing, j'en avais écouté quelques bouts. Il y a des bons passages, évidemment, mais je pense qu'il y a beaucoup de remplissage sur cet album-là. C'est un album très long, puis je pense qu'il y a des longueurs, malheureusement.
Je l'ai détesté, cet album-là. J'ai trouvé que c'est une catastrophe. Franchement, c'est d'une longueur. J'ai l'impression que je l'ai écouté pendant 3 jours, l'album, puis ça a duré 1 heure. Vraiment, là, c'est drôle parce qu'ils ont juste fait 2 albums concept, hein, celui-là puis Metropolis partie 2. Puis je me dis, si Portnoy a écouté The Astonishing, il doit vraiment rire parce que c'est, franchement, très très drôle de concept. Je sais pas à quoi ils ont pensé en faisant cet album-là, mais l'album d'après est significativement meilleur. Là, donc,
oui.
Ils ont vraiment dû comprendre le message. Toi, Carl, est-ce que tu l'as écouté The Astonishing?
Par moment, mais en fait, c'est drôle, c'est surtout avec des jeunes. Quand j'enseigne l'été, des fois, dans des camps de musique, c'est souvent des jeunes qui me font entendre ces albums-là que j'ai moins écoutés, mais les adolescents d'aujourd'hui, c'est souvent par ces albums-là qui commencent, ou du moins, ils aiment beaucoup ces albums-là, j'ai l'impression, mais c'est drôle, moi, j'ai moins beaucoup accroché à ça, ça enlève rien. Je respecte beaucoup le fait qu'ils osent encore. Ils essaient de se repousser. Je pense pas je pense qu'ils font encore de la musique. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que je pense qu'ils font encore de la musique parce qu'ils ont le goût de faire de la musique et qu'ils ont un désir de créer. Mais c'est moins dans ma palette, moi aussi. Je pense qu'on en a beaucoup jasé, Gab, dans le passé, mais moi aussi, c'est moins dans ma palette.
T'sais. Mais c'est ça, je pense que c'est quand même bien parce que ils vont dans d'autres directions, ils explorent d'autres choses. Puis je pense qu'ils vont chercher un autre public avec ces albums-là. Puis c'est bien correct. T'sais. Mais c'est ça, les goûts sont, c'est personnel à chacun. Mais Distance Over Time, qui est leur dernier album, est quand même pas mal. En fait, c'est un bon album, j'ai trouvé.
Ouais.
Mais c'est un bon album, mais en même temps, quand j'ai le goût d'écouter du Dream Theater, c'est peut-être la nostalgie qui embarque. C'est comme pas l'album que je vais aller écouter.
Ben moi, je peux te dire, j'ai aucune nostalgie pour les albums à part Octavarium, puis Black Cloud and Silver Linings. Puis je peux te dire que. Moi j'ai trouvé ça c'est moins mémorable, on dirait, ces albums-là. Dramatic Turn of Events, je l'ai pas détesté, mais c'est trop inégal. Ils sont moins mémorables, je dirais. C'est moins touchant, on dirait. C'est moins épique. Ils ont perdu quelque chose dans leur
On pourrait, on pourrait partir le fameux débat, là, Mike Portnoy ou Mike Maggini. C'est comme les deux époques.
Ça fait une fracture dans le son aussi du groupe, c'est clair.
Ben,
hein?
C'est que je pense que Portnoy contribuait beaucoup, beaucoup, beaucoup à la composition. Donc,
il produisait les albums.
Ben oui, c'est ça. Fait que bref, une grande discussion. Alors, hey, merci tellement, Gap. Ça a passé tellement vite. Puis d'avoir accepté de venir jaser avec nous.
Merci à vous. C'était super le fun.
C'est toujours le fun de jaser de musique. Donc, je voulais juste rappeler aux gens que Gabriel vient de sortir il y a quelques semaines un premier EP. Solo qui s'appelle Spectrum Exploration 1 ou 1 pour les gens qui parlent l'espagnol. Alors, qui est disponible sur YouTube, qui est disponible partout. Gab, y a-tu peut-être d'autres choses? T'aurais aimé ça plugger? C'est ton moment. Vas-y.
En fait, c'est ça. Si vous voulez trouver un peu ce que je fais, marquez Gabriel Cyr, guitariste. Je l'ai écrit en anglais parce que le public sur YouTube est principalement anglophone, donc c'est pour ça que c'est guitariste, pas de E. Puis c'est ça, Gabriel C, vous allez me trouver sur Spotify, sur iTunes, sur Amazon Music aussi. Mais sinon, si vous aimez les vidéos sur YouTube, j'ai fait des vidéos pour mes compositions, mais j'ai aussi des vidéos de plein de pièces différentes, plein de styles différents. Je pense que si vous aimez la guitare, il y en a un peu pour tous les goûts.
Et qu'est-ce que je voulais dire donc? Et tes albums de Universe FX, on peut trouver ça aussi sur ou juste pour les gens qui seraient intrigués?
Ah, sur toutes les grandes plateformes numériques là, ou encore sur notre site internet, universefx.ca. Donc si vous voulez acheter des albums physiques, c'est possible. Puis c'est ça. On est sur YouTube aussi, sur Spotify, bon, toutes ces plateformes-là.
Cool. Et juste pour les gens qui
ben,
sont...
Merci encore. Oui.
Oh, je vais juste dire une petite référence pour ceux qui sont avides d'anecdotes. La pièce titre de notre émission, qui est la pièce Grand Prix, c'est Gabriel qui joue la guitare. Alors, vous voyez, il y a des connotations qui se passent pour les gens qui aiment les petites histoires.
C'est vrai, notre chanson de titre, c'est tu étais interprète dessus, donc on te remercie pour ta performance sur la chanson, mais surtout pour ta présence aujourd'hui au gars du Brog. On te remercie beaucoup, donc Gabriel Cyr. Avant de conclure, j'aimerais rappeler nos auditeurs que vous pouvez nous écrire à l'adresse lesgarsduprog@commercial.gmail.com. C'est la meilleure façon de nous rejoindre si vous voulez nous poser des questions, nous proposer un top 5, un album à critiquer, si vous voulez nous partager vos top 5 à vous. C'est quoi vos albums préférés de Dream Theater? Est-ce que vous avez adoré The Astonishing? Est-ce que Metropolis Partie 2 est surestimé? On veut le savoir. Donc, écrivez-nous. Vous pouvez aussi laisser des commentaires sur YouTube. Et avant de finir, Carl, qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine?
Alors, nous allons avoir une critique d'un album qui va sortir bientôt, si je ne me trompe pas. C'est bien ça hein, qu'on avait conclu.
Ouais, il sort cette semaine, je crois.
Qui est le nouvel album de Aiken, que j'ai bien hâte d'entendre. Toi, Gab, ouais. Aussi, qui va sûrement l'écouter, j'imagine.
Oui, c'est sûr.
Et quel sera notre top 5, mon Phil?
J'ai goût de te lancer un défi. Carl, est-ce que tu penses que tu vas avoir le temps d'écouter de la musique dans les deux prochaines semaines?
Je vais tenter. J'écoute toujours plein de musique, mais
parce que
oui.
Je pense que c'est un groupe que tu connais pas.
Ben, c'est parfait, man.
Mais ils ont pas une grosse discographie. Fait que j'aimerais ça faire un top 5 album du groupe Death.
Oui, c'est le groupe que tu parles.
Chuck Schuldiner. Ouais, ben c'est mon groupe de metal préféré, pas mal, je pense, là. Donc, ça, j'écoute constamment depuis quelques années. Fait que j'aimerais ça faire un top 5 de ça avec toi, si ça t'intéresse. Puis Gabriel, si tu veux nous partager ton top 5 du groupe Death, si tu aimes le groupe, tu peux le faire en nous écrivant à lesgarsduprog@commercialgmail.com.
Je regarde ça, c'est pas un groupe que je connais beaucoup, j'en ai écouté un peu, là, mais écoute, si le cœur m'en dit, je vais vous faire parvenir ça.
Merci.
Tu vas devenir notre correspondant officiel, Gab.
Ouais, il est toujours le bienvenu sur venir, Mané, tu nous écris, puis on s'arrange ça.
Oui. mais merci, alors je te laisse le mot de la fin, mon Phil.
Yes, ben tout le monde, si vous êtes encore en quarantaine, la réouverture commence, mais faites attention à vous, faites attention aux gens autour de vous. Continuez d'écouter de la musique et supportez vos artistes locaux si vous pouvez, il y en a besoin. Donc, ben, ils ont toujours besoin, mais surtout ces temps-ci. Donc, faites peut-être acheter un album si vous n'avez pas fait depuis longtemps, peut-être, mais supportez quelqu'un que vous aimez, ça va être apprécié, j'en suis certain. Donc, vive le prog!